France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des promesses et de ce qu'on en fait, plan large ce samedi avec Erich Seiri et Jonas Trueba et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Les promesses, c'est faire au présent un pari sur le futur, celle d'une vie meilleure par exemple, loin de chez soi, qui trop souvent se confronte à la réalité d'un exil en milieu hostile. C'est ce que raconte entre autres avec humanisme mais sans mièvrerie, avec une grande acuité politique mais sans verser dans le discours didactique, la franco-tunisienne Erich Seiri pour son deuxième long métrage de fiction après Sous les figues qui nous avait déjà saisi il y a 4 ans. Promis le ciel rassemble dans une maison de Tunis 3 femmes et une fillette, toutes venues de l'autre côté du Sahara pour des raisons aussi diverses qu'elles leur appartiennent et que la cinéaste nous fait regarder vivre, se battre et se débattre avec une tendresse dans le regard qui nous embarque et nous émeut tant il est des meilleurs films comme des maisons justement pour les personnages qui y vivent comme pour le public qui s'y trouve accueilli. C'est la même philosophie du cinéma que partage un désormais grand habitué de cette émission, le toujours jeune cinéaste espagnol Jonas Trueba, à qui le Centre Pompidou consacre une rétrospective bienvenue à partir de mardi prochain. Elle donne l'occasion aussi de découvrir en salle, en sortie nationale, un film d'il y a 10 ans qui était resté inédit en France, un film tourné juste avant celui qu'il avait révélé de ce côté des Pyrénées, Eva en août. Dans La Reconquista, encore, il est question de promesses, celle qu'on se fait à 15 ans et dont on tente de se souvenir à 30, et on y trouve aussi rétrospectivement toutes les promesses largement remplies de l'œuvre à venir. Jonas Trueba, nous l'entendrons tout à l'heure. En fin d'émission, Sandra Onana nous fera traverser les bas-fonds londoniens sur les basques d'un personnage mal aimable et vitupérant, comme seul Mike Lee en a le secret à l'occasion de la réédition en salle du film qu'il a imposé internationalement en 1993, Naked. Mais dans l'immédiat, dans cette discrète maison des faubourgs tunisois, c'est l'heure du bain.
Pourquoi on est renversé ?
Le bateau s'est renversé.
Oui. Athènes, là, c'est cassé. Oui, c'est cassé. Les tontons.
Oui, le tonton.
Il a pris le couteau à la maison. Mm-hmm. Il a mis sa poche. Il a lancé le couteau sur les gens.
Et puis le bateau, après, s'est renversé ou bien c'était comment?
C'est renversé et ils sont collés à terre.
Dans l'eau?
Oui, mais c'est un peu cassé, mais tout est cassé.
Et toi?
Moi, je ne suis pas collé à terre. Quand le bateau est tombé là, moi, je suis monté ici, là.
Maintenant, et le monsieur qui avait le couteau sur le bateau, là?
Il a fait quoi?
Il
n'est pas là. Il était sur le bateau, non?
Il est tombé sur l'eau, là.
Non, il s'est renversé aussi.
Oui. Tout le monde est versé. Parce qu'on est assis sur le bateau, ça là. Il y a pied de quelqu'un qui a coupé, moi je ne sais pas.
Comme ça, on va bien s'occuper de toi.
Bonjour Erich Seiri.
Bonjour.
C'est le tout début de votre film. Il y a 3 femmes, on pourrait dire 3 bonnes fées autour de la petite Kenza, qui a 4 ans sans doute, on ne sait pas. Kenza, on va y revenir dans un instant. Alors autour d'elle, il y a Marie, qui est une pasteur ivoirienne, ancienne journaliste. Il y a Nané, mère de famille sans papier, qui a laissé sa fille au pays et qui espère rejoindre l'Europe. Et puis Jolie, une étudiante sur laquelle reposent les espoirs de toute sa famille et qui, elle, a des papiers. Ça, c'est une donnée importante. Alors, comment est-ce que vous avez composé ce trio? Est-ce que c'est au hasard des rencontres que vous avez pu faire à Tunis avec ces migrantes subsahariennes qui sont partout dans Tunis, mais que sans doute personne ne veut voir? Erich Sayri.
Oui, il y a un peu la réponse déjà dans la question. Personne ne veut les voir. En tout cas, on les regarde traverser la ville, les rues, sans vraiment les voir. Elles travaillent aussi pour beaucoup dans des familles tunisiennes. Ça rappelle aussi beaucoup la migration du Maghreb vers l'Europe dans les années 70, comme mes parents, où à l'époque, on créait aussi des églises des mosquées dans les maisons. Là, pour le coup, c'est l'inverse, puisque c'est des églises dans un pays musulman. Et c'est un mélange de rencontres et de vouloir raconter des parcours de femmes dont on entend très très peu, de parler aussi de la migration interne à l'Afrique, puisque elle est en réalité majoritaire. On parle beaucoup beaucoup de la traversée vers l'Europe et très peu de la majorité des migrants africains qui restent en Afrique. 80% d'entre eux restent en Afrique. Et voilà, c'est des histoires qu'on n'entend jamais.
Alors pourquoi est-ce que vous commencez votre film comme ça, autour de ce bain, autour de cette petite fille? Où l'avez-vous trouvée d'ailleurs, cette petite fille? Parce que j'ai l'impression que ça dit quelque chose aussi de votre méthode. On est à la fois dans quelque chose qui est très scénarisé, mais extrêmement vivant. On pourrait avoir l'impression que vous avez capté sur le vif une scène comme ça, familiale, qui est à la fois très touchante et très bouleversante par ce qu'elle raconte, cet enfant.
Oui, parce qu'elle raconte de manière fragmentée un naufrage et dans lequel elle a survécu, et c'est pour ça qu'elle est accueillie par ses femmes, et notamment par Marie qui est pasteur et qui a sa propre église et donc qui accueille cette orpheline. Et ce bain, en fait, de toutes ces trois femmes qui font ce bain à cette petite fille très symbolique, qui pourrait être comme un baptême, mais qui symbolise aussi dans cette bassine le bateau et la mer et l'eau, et de manière très fragmentée, presque, je dirais pas joyeuse, mais en tout cas elle le raconte comme elle raconte une histoire. Une histoire qu'elle aurait... Pourtant, c'est quelque chose qu'elle a vécu. C'est aussi quelque chose que, dans la vraie vie, Kenza a vécu, puisqu'elle porte son vrai nom. C'est une petite fille que j'ai rencontrée dans une église évangélique, avec sa mère, donc elle n'est pas orpheline dans la vraie vie, mais qui aurait tenté la traversée avec sa famille auparavant. Et donc, ce moment du bain est un mélange de fiction et de documentaire, où elle raconte de manière fragmentée et bouleversante, je trouve... toute la violence de la traversée de la Méditerranée.
Cette petite fille sera là comme un lien entre ces trois femmes pendant tout le film. Elle apporte évidemment un surcroît de vie dedans. On a très souvent le sentiment, et j'imagine que ça s'est passé comme ça au tournage, vous n'avez sans doute pas tout gardé au montage, que vous vouliez simplement la regarder vivre, jouer, traverser cette cour.
Oui, parce que je trouve que souvent, on dépeint les migrants et les migrantes de manière comme des archétypes. Comme des archétypes de personnages aussi, où sont soit des héros, soit des victimes. Et moi, j'avais envie juste qu'on les voit tels qu'ils sont dans leur normalité, finalement. Et c'est là toute la beauté de tout ce qui m'a inspirée chez elle et chez cette petite fille. C'est-à-dire que dans la fiction, on aurait imaginé le trauma d'une enfant qui a survécu à un naufrage, où elle aurait peut-être perdu toute sa famille, comme une enfant taiseuse, triste, repliée sur elle-même. Et on a en fait finalement une enfant qui nous rappelle la vie, qui nous rappelle qu'elle est en vie et qu'il faut y réfléchir et qu'il faut penser à cette vie et à son avenir.
Et c'est avec ce même regard que vous embrassez vos trois personnages principaux. Je les ai décrites sommairement, j'en ai pas dit grand-chose en même temps. Et là encore, vous les suivez, vous les regardez vivre. Alors comment est-ce que vous construisez ces personnages, à la fois à partir de personnes que vous avez rencontrées pour de vrai, et avec les actrices, professionnelles ou pas, mais est-ce que ça a vraiment une importance, qui les incarne?
Je pense que c'est comme une rencontre de deux cultures, comme si, comme moi par exemple, moi physiquement j'ai l'air d'une Tunisienne, mais dans mon esprit j'ai un esprit un peu plus occidental, et ma manière d'écrire, elle rejoint un peu les deux. Et je pense que c'est exactement pareil pour ces comédiennes, c'est-à-dire qu'il y a les personnes réelles qui m'ont inspiré le rôle, il y a la comédienne, et il y a quelque part un point au centre qui se rejoint et qui crée ce personnage incarné. Et c'est vrai, c'est difficile même de les décrire, ces personnages. Il faut vraiment les découvrir dans leur mimique, dans leurs gestes, dans leur façon de parler. Parce qu'on sait très peu de leur passé, on doit un peu le deviner. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elles soient incarnées dans le moment présent et on a l'impression de vivre avec elles.
Et alors, pourquoi il y a trois femmes? Parce que vous avez un goût, on l'avait déjà remarqué dans Sous les flics pour le film Chorale. Vous aimez animer plusieurs personnages, les suivre parallèlement, comment elles se rencontrent, comment elles se séparent aussi. Pourquoi ce goût-là?
Parce que ça ressemble à la vie, parce que dans la vie, on est liés les uns aux autres. Et je trouve toujours que dans un film, c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue sur la même situation. Là, on est dans une situation délicate. Ça se passe en Tunisie, au moment où il y a des rafles de migrants. Elles vivent dans cette église évangélique qui n'est pas réellement autorisée puisqu'elle est interdite par les autorités. Parce que l'évangélisme est considéré comme une secte. Ce qui n'est pas le cas, hein. Par exemple, des églises catholiques ou des synagogues qui existent en Tunisie et les gens pratiquent leur culte. Mais là, c'est différent. Et tout ça, je trouve que voilà, ça raconte un microcosme et ça raconte une société, un contexte politique actuel, très contemporain. Et je pouvais pas me passer de l'une ou de l'autre. Je trouve qu'une éclaire l'autre.
Alors, dans un contexte de rafle, c'est ce qu'on voit dans le film, c'est aussi ce qui se passait pendant le tournage même. Comment on fait un tournage dans ces conditions-là?
Bah, on essaie de protéger au maximum les personnes qui travaillent. On fait aussi les choses dans les règles, puisqu'on a obtenu quand même une autorisation du ministère de la Culture. Donc tout ne fonctionne pas, il y a aussi des choses qui fonctionnent encore. Et on essaye aussi de réduire les décors, de réduire les déplacements, et donc de penser à son film avec ce qui se passe dans la vie, de l'adapter. Et en même temps, ça influe quelque chose de très fort, puisque ça ramène encore une fois la vie et le réel dans la fiction. Et on n'oublie pas pourquoi on est en train de faire ce film. Et donc toutes les émotions qui ressortent du film sont presque toutes des émotions réelles, vécues.
Est-ce que ça veut dire que vous avez inclus dans ce qu'on voit, nous, à présent, des choses qui se sont passées pendant le tournage et que vous n'aviez pas prévu au scénario?
Par exemple, quand la deuxième pasteur vient prévenir Marie du danger, c'est parce que cette pasteur a vécu le danger réel et qu'elle vient la prévenir comme ça se passait exactement dans sa vie à ce moment-là. Il y avait des choses qui avaient été prévues, mais et puis en même temps, au contraire, il se passait des choses même plus graves qu'on a décidé de ne pas mentionner dans le film. Et de se dire qu'il faut aussi prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre et que justement on n'est pas ni dans l'idéologie politique ni dans le discours politique mais on est en train de montrer la vie de ces femmes et les conséquences des décisions politiques en général internationales et notamment des pressions européennes sur la question migratoire sur le quotidien de ces femmes. Mais c'est pas n'importe quelle femme, c'est des femmes qui sont quand même installées dans la capitale à Tunis, donc on est loin de la migration du désert, de la mer, voilà.
Les clichés habituels qu'on voit. Oui.
Oui, voilà, on est dans une migration urbaine, moderne. Moi, je me souviens la première fois que j'ai rencontré Déborah Nanné, qui est une actrice non professionnelle, qui allait traverser la Méditerranée au moment où je l'ai rencontrée. C'est assez incroyable. Et je suis allée chez elle et je lui ai demandé si je pouvais voir un peu ce qu'il y avait dans son placard pour peut-être écrire le personnage un peu plus proche de la réalité. Et dans son placard, il y avait deux éléments et c'était assez troublant. Il y avait un gilet de sauvetage et en même temps, il y avait une robe à paillettes roses.
Ça définit bien le personnage.
Voilà.
Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes rien. Votre vie a une signification ultime. Tu es venu ici tenter ta chance. Chaque jour est une bataille. Au pays, ils ne savent même pas ce que tu traverses ici. Tu as recréé une famille ici. Tu as trouvé des appuis ici. Et parfois, tu doutes. Tu te dis que les choses n'avancent pas pour toi. Alors que Dieu a son plan. Il a son plan pour toi. Tu es le cadeau de Dieu.
Amen.
Vous êtes le cadeau de Dieu. Vous êtes le cadeau de Dieu. Alléluia.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le.
Alors c'est Marie, jouée par Aïssa Maïga, qui prêche auprès de sa communauté. L'église s'appelle l'église de la persévérance. Et c'est évidemment une image très positive de ces fidèles qu'elle essaye de leur envoyer. On se dit que son discours va bien au-delà des limites de celles et ceux qui l'écoutent, qu'elle parle aux migrants du monde entier, et sans doute à elle-même aussi, avant tout.
C'est vrai. Ce que je trouve intéressant chez les pasteurs, moi j'ai découvert, hein, je savais pas déjà qu'une femme pouvait être pasteur. Elle a été incroyablement interprétée par Aïssa Maga, qui a eu très peu de temps de préparation, qui a dû rencontrer une vraie pasteur évangélique à Tunis pour porter ce rôle.
Et qui en plus prêche devant de vrais fidèles.
C'était assez incroyable. Beaucoup de pression pour Aïssa Maga, puisqu'ils lui ont dit... ils devaient un peu la valider, finalement. Et ils l'ont fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle joue un double rôle, parce que les pasteurs sont aussi dans un jeu de rôle. Aussi, ils doivent... pas montrer leurs failles, donner de la force, de l'énergie, et justement être toujours dans quelque chose de positif, même si autour de soi, c'est plus compliqué. Et en même temps, c'est aussi une femme avec toutes ses blessures, tout son passé, qu'on essaye de deviner, et qu'elle doit passer outre, et en même temps, elle doit être responsable de toute cette paroisse, de toutes ces femmes, et de prendre des bonnes décisions, et de aussi se poser la question centrale du film, qui est cet enfant qu'elle accueille, Kenza. Que faire d'une enfant orpheline? Est-ce que on la garde dans l'église, mais c'est une église illégale? Est-ce qu'elle appartient à la communauté, mais si elle est orpheline et qu'on ne sait pas qui sont ses parents, de quelle communauté on parle? Ou est-ce qu'elle doit être remise aux autorités tunisiennes, et donc devenir pupille de la nation tunisienne? Et c'est toute là la question morale du film.
Vous dites qu'elle joue un rôle, vous montrez précisément comment elle s'y prépare à ce rôle, vous filmez, on ne sait pas si c'est Aïssa Maïga en train de répéter son texte ou Marie en train de de caler un peu ses intentions de jeu. C'est vraiment comme une stand-upeuse devant son miroir qui répéterait ses punchlines.
Oui, moi ça m'a amusé. Enfin, en fait, ça m'a amusé ce double jeu. Ça, je sais pas, tout ça était. Puis aussi d'avoir choisi l'exercice de la persévérance, c'était aussi un peu second degré, quelque part. Il y a cette chanson, d'ailleurs, qui s'appelle Persévère, et le film interroge la question de la persévérance, avec ce plan de Dieu qui agirait à un moment dans notre vie.
Mais qui tarde un peu à s'accomplir.
Et qui tarde, exactement, qui tarde à s'accomplir. Et ça pose aussi, là, vraiment la question philosophique de la persévérance. Est-ce qu'on doit persévérer jusqu'au bout, vers nos rêves et nos projets et nos envies, ou est-ce qu'à un moment donné, la persévérance, c'est pas aussi changer de chemin? Et donc persévérer autrement. Mais voilà, ça c'est aussi un peu des questions. Et puis aussi la question du vouloir et du pouvoir, puisque nous dans nos sociétés, et puis c'est aussi un peu la question... Je parle du rêve américain, parce que ça me rappelle... Enfin, ce film pourrait se passer sous Trump actuellement. Et de ce yes we can, quoi. Oui, on peut, quand on veut, on peut. Et ces femmes, je trouve qu'elles nous disent autre chose. Elles nous disent qu'il faut aussi pouvoir pour vouloir.
Alors, rêve américain, pasteur évangélique, c'est aussi, comme tous les pasteurs évangéliques, une entrepreneuse que cette Marie. Et je ne sais pas si c'est parce que vous êtes passé un moment de votre vie par la finance, mais vous êtes très attentive aux questions d'argent. Vous êtes très attentive à comment ces gens, ces personnes survivent, comment elles s'organisent, combien coûte telle ou telle chose, comment il y a des maquis clandestins, des trafics d'alcool qui permettent aussi de survivre. Vous vouliez cette précision-là? Eric Sahiri.
Oui, parce que je pense que quand il y a un vide juridique et quand on est comme ça dans une situation où elles n'ont pas leurs papiers, où ils n'ont pas leurs documents, ils doivent bien se débrouiller pour survivre et pour vivre. Et moi, ça m'intéresse, tous ces mécanismes, parce qu'en fait, c'est instrumentalisé après. Tout ça se retourne contre eux. Alors, ils font des tas de trafic, ils font ci, ils font ça, les églises évangéliques sont des arnaques, etc. Mais on voit bien qu'en même temps, on ne leur laisse pas trop le choix de devoir se débrouiller. Ils n'ont pas de possibilité d'ouvrir de compte bancaire, donc l'église devient la banque. Ils n'ont pas vraiment le droit d'ouvrir des entreprises. Donc les entreprises s'ouvrent à la maison, voilà. Et donc je trouve ça intéressant comment l'être humain arrive à se débrouiller de toute manière et trouve toujours un chemin.
Et on n'a pas parlé encore de l'image de ce film qui est très belle, qui est une image qui est très bleutée, qui va assez contre l'idée qu'on se fait généralement d'un film tourné en Afrique, que ce soit au sud ou au nord du Sahara. Vous travaillez avec Frida Marzouk, oui, qui a travaillé, elle, beaucoup avec Abdelatif Kechiche. Comment est-ce que vous avez, quelles indications vous avez pu lui donner sur cette façon de filmer et de construire l'image?
C'est vrai qu'avec Frida, elle a déjà travaillé avec moi sur Sous les figues, et puis son expérience avec Abdelatif Kechiche fait qu'elle comprenait aussi cet état d'esprit de toujours se laisser le temps de trouver les scènes, de trouver la magie du moment, de s'attarder sur ça, et d'avoir aussi cette capacité à être très 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 proche des comédiens. Et donc c'est presque un regard charnel qu'on a sur ces femmes. Et puis cette couleur bleue, il y a le bleu et le rose dans le film, sont vraiment les deux couleurs du film, sont les couleurs du crépuscule tunisien. Et puis sont des couleurs quand même froides, alors qu'on a l'habitude des couleurs chaudes de nos pays. Donc c'est ces couleurs froides pour montrer l'accueil finalement de ces femmes. Et puis aussi le bleu comme le bleu du ciel, le bleu de la mer, le bleu de toutes ces promesses de la Méditerranée, des droits humains aussi. Et puis le rose de la robe à paillettes de Nanée, pour moi qui est inoubliable, qui nous rappelle cette force qu'elles ont ces femmes et cette envie de liberté et de vivre malgré tout.
Alors, je ne sais pas si ça, là encore, c'est une indication précise que vous avez donnée à Frida Marzouk, mais sans doute, on est très frappé quand même par l'attention que vous avez pour les gestes, pour les regards, pour les silences aussi beaucoup.
Parce que c'est ce qui nous rapproche des autres. Et c'était le but du film, que quand on veut casser des stéréotypes ou des clichés, il faut s'attarder aux petites choses qui fait qu'on est tous pareils, à cet effet miroir d'émotion qui fait qu'on, quand on regarde les autres, on se voit aussi soi-même, et notamment pour la question du racisme, par exemple, puisque là on est dans un racisme inversé, c'est plus l'Occident raciste envers les populations, du Maghreb, par exemple, ou d'Afrique. Là, c'est le contraire. On est en Afrique, ça se passe entre Africains, et il y a cet effet miroir. Et donc, voilà, avec Frida, on s'attarde sur les gestes pour montrer qu'on est tous pareils, quoi.
Et on est toujours l'Africain de l'autre. Hein.
Voilà.
On n'a pas dit pourquoi le film s'appelle Promis le ciel. À quel moment dans l'écriture est intervenue cette chanson du groupe Delgrès?
Alors, elle est arrivée assez tard sur le projet, au moment où je cherchais un titre pour ce film, et c'est en écoutant France Culture que j'ai entendu Promis le ciel dans une émission de radio. J'ai oublié l'émission, mais c'est là que j'ai découvert Promis le ciel. Et là, j'ai noté tout de suite. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Les paroles du film, elles parlent de... Enfin, les paroles du film, les paroles de la chanson parlent du film. C'était pour moi, et ça a donné le titre du film. On aurait l'impression que la chanson a été écrite, d'ailleurs, pour ce film-là. Et j'ai contacté le groupe Delgrès, Pascal Danaillé, super groupe franco-antillais qui font cette musique... Je trouve qu'elle a cette énergie justement qui n'est pas attendue sur les questions migratoires, on s'imagine. Des musiques lyriques, tragiques, etc. Je pense que la vie est déjà assez tragique pour tous ces gens-là. C'était bien que cette musique nous donne le peps, parce que c'est ce que ces femmes font en fait tous les jours.
T'es arrivé en pleine nuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en 2 minutes je suis réveillé. Je me retrouve les chaînes aux pieds. Pas le temps de respirer, ils ont fait un signe de croix. On était tous baptisés. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. Arabe. Ils ont mis tous les parents et les enfants de l'autre côté. On était bien alignés comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix. On était tous embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel. Je suis sur la terre, arabe. Arabe.
Merci Erich Seiri. Promis le ciel sortira en salle mercredi prochain, en même temps que votre premier long métrage, le documentaire La Voix Normale, qui en 2018 saisissait via le portrait croisé de 5 cheminots, film choral là encore, la transition de la Tunisie post-Ben Ali. Formidable documentaire qu'on vous recommande chaleureusement. Vous écoutez France Culture, et dans Plan Large, après Tunis, on part pour Madrid, territoire d'élection d'un cinéaste qu'on aime beaucoup ici, Jonas Trueba, qu'on a déjà reçu 3 fois fois dans Plan Large à propos de Qui à part nous. Venez voir et Septembre sans attendre. Il faut dire que le Romer madrilène tourne beaucoup et c'est tant mieux, comme en atteste une rétrospective intégrale qui s'ouvre mardi prochain à Paris dans les salles du MK2 Bibliothèque dévolue au Centre Pompidou. Ça s'appelle Jonas Trueba, le goût du présent, et ce sera notamment l'occasion de découvrir trois nouveaux films réalisés spécialement pour l'événement. Sa contribution à la collection du Centre Pompidou, Où en êtes-vous, qui s'appelle Vistillas, en forme de journal de bord et d'amitié. Une relecture de son film de 2013, Los Ilusos, devenu en 2026 Los Ilusos 13+13. Et un film surprise dont, comme son nom l'indique, on ne sait rien. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir les longs métrages, jusqu'alors inédits en France, qu'il a réalisés avant le film qui, en 2019, l'avait révélé chez nous, Eva en août, dont celui qui précède immédiatement Eva en août, La Reconquista, un film qui bénéficie pour l'occasion d'une sortie nationale en copie restaurée. La Reconquista, comme son dernier film Septembre sans attendre, a de faux airs de comédie du remariage. Un homme et une femme qui se sont aimés à 15 ans se retrouvent à 30. Les deux sont joués par des fidèles du cinéaste, Francesco Caril et Itzaso Arana, qui fait ici sa première entrée dans son cinéma. Nous avons rencontré Jonas Trueba pour parler avec lui de mémoire, du passage du temps et de sa fidélité à des actrices et acteurs qu'on voit vieillir de film en film, une manière comme une autre de vivre le présent, mais tellement mieux.
¿No te acuerdas?
Bonjour, Jonas Trueba.
Bonjour.
Dans La Reconquista, Manuela et Olmo ont 15 ans, mais à 30 ans, ils essayent de se souvenir de leurs 15 ans. 30 ans, c'est à peu près l'âge que vous aviez quand vous avez tourné La Reconquista. C'était il y a 10 ans. Alors, quel souvenir vous avez aujourd'hui du cinéaste que vous étiez à l'époque? Puisque une des questions, évidemment, que pose le film, c'est à quel point notre vision du monde change quand on vieillit.
Sí, efectivamente, era...
En effet.
Es una buena pregunta porque...
C'est une bonne question.
Creo que es una película que hice
parce que
un gran momento
je pense que j'ai fait ce film à un grand moment
un
de doute, vital, no? De doute vital.
De cómo continuar haciendo películas
en me
juntos,
demandant comment continuer à faire des films ensemble. Bon, c'est une question que je n'ai jamais cessé de me poser.
¿Cómo hacemos, no?
Comment faire? Mais à ce moment-là, précisément, c'était aussi une question que je me posais
sobre l'énergie vitale,
sur
juvenil,
l'énergie vitale, l'énergie juvénile, l'énergie amoureuse
de mantener, o que vamos perdiendo,
qu'on peut
no?
maintenir ou alors est-ce qu'on la perd en en vieillissant, en grandissant.
Esa perdida, no?
Et
que,
dans quelle mesure est-ce qu'on peut
que nos vamos
s'arranger,
no?
s'accorder de cette perte
que cuesta a veces
et le choc que ça peut être de, d'avoir à admettre cette perte-là.
Igual, no? que si
aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que je ne suis pas très loin si je pense à La Reconquista qu'on vient de ressortir. En Espagne, je m'en sens à la fois proche et loin, comme de l'adolescence d'ailleurs.
Il y a ce qu'on perd, il y a aussi ce qu'on gagne. Avec ce film, quelqu'un de nouveau arrive dans votre cinéma, c'est Itzaso Arana, actrice qui sera la co-scénariste de vos films, qui sera cinéaste elle-même. Vous avez eu conscience, quand vous avez tourné La Reconquista, que tout d'un coup, il y avait quelque chose de nouveau qui se passait dans votre cinéma?
Sí, creo que es algo de lo que me fui dando cuenta.
Je pense que tous les deux, on s'est petit à petit rendu compte de ça. On se connaissait un tout petit peu avant déjà, mais pas vraiment. Moi, j'avais vu ses pièces de théâtre, elle avait surtout travaillé au théâtre pendant toute sa vingtaine, et elle avait vu mes films. Donc on avait comme ça une espèce de respect, d'admiration, de tendresse mutuelle. Mais en faisant ce film, je me suis rendu compte, ou j'ai eu la confirmation, qu'elle était bien plus qu'une actrice, que c'est une créatrice au sens propre. Et donc, en travaillant avec elle devant la caméra, face à la caméra, ça veut dire avoir constamment une complice à chaque plan. Et c'est comme ça que très naturellement, après la Reconquista, on s'est mis à écrire ensemble le scénario d'Eva en août.
Ce film commence par une citation d'un poète en incipit. « Je confie mon cœur au futur et j'attends simplement. » Alors, ça peut parler de leur histoire à eux, mais ça peut parler aussi de votre histoire à vous, de faire des paris sur des acteurs que vous allez réemployer. Et c'est évidemment très émouvant pour nous, en découvrant ce film maintenant, c'est de les voir, ces acteurs, 10 ans plus jeunes. Est-ce qu'un de vos plaisirs de cinéaste, c'est de voir vieillir sous votre caméra des visages d'acteurs, d'actrices, de personnes que vous aimez? Est-ce que c'est pour ça que vous tournez souvent avec les mêmes?
Oui, pas tellement pour le plaisir de voir vieillir. Ça serait presque inquietant si c'était ça. Mais c'est une conscience, en tout cas, de ce fait que le cinéma a ce pouvoir, cette force.
La crueldad, ¿no?
Cette cruauté de garder la trace de ce vieillissement. Mais pour revenir à la citation qui ouvre le film,
la cita habla de la confianza, ¿no?
Il est question de confiance.
Que era, siempre ha sido muy importante para nosotros,
qui,
¿no? Trabajar
pour nous, a toujours été fondamental. Travailler en confiance.
Al final es también envejecer, ¿no?
Et faire confiance, c'est vieillir, bien sûr, aussi.
Con personas, con amigos, hay que confiar, ¿no? Mucho en,
pour pouvoir vieillir ensemble, il faut se faire confiance.
Ellos, yo sentí, y todos juntos
en soi et tous ensemble, avoir confiance aussi dans la vie, dans le cinéma. Ce poème vient d'un livre d'un poète espagnol merveilleux que je lisais tout le temps et qui précisément s'intitule « Confiance ».
Si on voit vos personnages si bien dans vos films, c'est que vous avez un vrai amour du gros plan, du visage. Et ce film « La Reconquista » commence sur ce gros plan d'une femme en train de pleurer, finit par le gros plan du visage d'un homme comme illuminé parce qu'il a compris et par ce dont il s'est souvenu. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les visages dans votre cinéma?
Ça me touche que vous parliez de ça parce que je pense que j'ai eu du mal à me résoudre à faire des gros plans. Par pudeur, j'avais peur de mettre la caméra trop près et pour moi c'était presque une agression, une intrusion.
Ça me faisait peur,
ça me mettait dans un embarras vis-à-vis de mes acteurs.
Con cada película me he ido casi obligando
mais
a mí mismo a acercarme un poco,
chaque film, je me suis presque forcé à oser m'approcher davantage. Et je me souviens très bien de ce gros plan d'Itsaso au début du film. C'était presque une obligation que je m'étais fixée. Et le dernier plan, en effet, bien sûr, c'est le corollaire. Mais je me sentais plus en confiance déjà avec Francesco. Puisque c'était la troisième fois qu'on tournait ensemble, donc je pouvais me permettre d'aller un peu plus près.
Ce qu'on retrouve dans ce film qu'on verra de vous plus tard, ce sont aussi ces visages qui écoutent, qui assistent à un spectacle, qui assistent à un concert de musique. On avait ça au début de Venez voir. Alors au début de Venez voir, c'est un concert de Chano Dominguez. Ici, ce sont des chansons de Raphaël Berrio. Ouais. Souvent, vous montrez ça, moins la création que l'effet que ça a sur les gens qui la reçoivent.
Oui, c'est exactement ça. Ça m'intéresse beaucoup, l'écoute. L'écoute de la musique, en l'occurrence. Comment la musique traverse nos corps. Et dans la Reconquista, pour moi, la scène centrale qui fait basculer le film, c'est une scène où la chanson de Raphaël Berrio traverse les corps de Manuela et de Olmo et on sent qu'un lien de nouveau se tisse entre deux. C'est qu'en reconnaissant la chanson qu'ils se retrouvent et qu'ils retrouvent le lien qu'ils avaient jeunes qui retournent à leur âge adulte.
Raphaël Berriot, c'est celui dont les chansons accompagnaient un autre de vos films suivants, Qui à part nous. En espagnol, ça se dit Quién lo impide, c'est-à-dire qui l'en empêche. Et cette chanson, on l'entend déjà dans La Reconquista. Exactement. Alors, quel lien y a-t-il entre ces deux films? D'autant plus que ceux qui jouent Manuela et Olmo, adolescents, eh bien, on les verra eux aussi vieillir, grandir dans Qui à part nous.
Sí, sí. Bueno, las canciones de Rafael Berrio.
Les chansons de Rafael Berrio. C'est de là que vous venez de citer, étaient très importantes dans La Reconquista.
Pero efectivamente, la última que suena. Mais
en effet, la dernière, Quien lo impide.
Cierra La Reconquista y abre la siguiente empêche, película, ¿no?
Como si ferme La Reconquista et ouvre le film suivant, Quien lo impide.
Sí, comunicando, dialogando entre
comme
ellas,
si les films s'enchaînaient ou dialoguaient entre eux, comme si résonnait avec l'autre. C'était La Reconquista était ma manière de me relier à mon adolescence.
Quizás quien lo impide, pues es,
et peut-être que
mi manera de acercarme a la
qui à part nous était ma façon de m'approcher l'adolescence de l'adolescence de Carmela et Pablo.
Para mí indistinguibles, pero en realidad
ce sont des films qui, pour moi, ne peuvent pas se distinguer l'un de l'autre, mais en même temps, ils sont très différents, complètement différents.
Necesito aire, solo quiero el aire que vos respiras y desde lejos me mandas. Llega este mensaje. Llega un poco tarde para ver el sol que ahora ya no se ve más. Mándame un poco de tu Buenos Aires. Muéstrame un poco de tu Buenos Aires. Contame un poco de tu Buenos Aires. Tráeme un poco de aire.
Pour revenir à la musique et aux chansons de Raphaël Berriot, comme on les entend très longuement et qu'il faut prêter attention à ce qu'elles disent, on a vraiment l'impression que vous les utilisez comme un chœur antique. C'est pas là pour habiller le film, on dira, c'est vraiment là pour le commenter, comme si le chanteur parlait directement au personnage ou nous dévoilait ce qui se passe à l'intérieur d'eux. C'est comme ça que vous avez pensé cette utilisation?
Si, si, absolument.
Oui, oui, c'est exactement ça.
C'est autre compréhension de la musique, non, pour la pellicule.
C'est une autre approche de la musique, en effet. Ce n'est pas une musique utilisée comme mode d'illustration, mais c'est la respiration propre, c'est le cœur, c'est la pensée des personnages.
Oui, si, diría que. Que a veces estas canciones me han servido casi
ces chansons
como un guion,
parfois ont été un scénario à proprement parler, meilleur que des dialogues que j'aurais écrits ou d'une description d'une didascalie. Les chansons sont une tentative de mise en scène de ces chansons.
Et quand vous dites que la musique traverse les corps, évidemment, La Reconquista, ce n'est pas la fausse piste d'une comédie du remariage. Il ne faut pas reconquérir un amour perdu. C'est la reconquête de la mémoire. Mm-hmm. C'est un mécanisme d'anamnèse. Mais on a le sentiment que ça passe par les corps et qu'il faut avoir dansé. Mm-hmm. Par exemple, dans cette magnifique scène de danse swing sur du jazz très, très hot, pour que la mémoire revienne. Ce n'est pas un processus mental, c'est un processus physique.
Bueno, está muy bien que hables de eso porque efectivamente
oui,
no todo
effet,
es mental.
Yo también
he tenido que aprender
ça, parce que
esto,
tout
¿no?
n'est pas, ne, que ne passe pas par le mental et moi il a fallu que je l'apprenne
ça. Por el cuerpo,
que la mémoire, l'énergie passe beaucoup par le corps.
La cabeza, por supuesto, el cerebro está en el cuerpo, pero
le cerveau aussi fait partie
entero,
du corps, certes, mais il nous faut le corps tout entier pour nous relier à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un rapport mental. On a besoin aussi des autres extrémités du corps, de tous nos organes.
Sí, esa escena es importante para,
et cette scène
para mí,
est
no,
en effet très importante pour moi aussi. Moi-même, je suis quelqu'un de très mental et donc il me faut un contact ou il m'aurait fallu un contact plus physique pour pouvoir me reconnecter aux choses.
Sí, entonces bueno, es curioso porque es una película sobre la memoria, como tú has dicho, sobre.
En effet, c'est un film sur la mémoire, sur la reconquête aussi. Des mots, par exemple, des mots que l'on a écrits dans une lettre d'adolescent.
Pero también es una reconquista de los gestos, ¿no?
Mais c'est aussi une reconquête des gestes, de quelque chose de plus physique.
Et c'est pour ça qu'il est important chez vous, comme chez Eric Rohmer, d'ailleurs, que quand on parle, on marche. En même temps, vous faites ces longs travelling arrière où vous regardez vos personnages parler en marchant ou marcher en parlant. Et on se dit que ce qu'ils disent est important, mais leur façon de marcher en le disant, tout autant.
Absolutamente, sí. A veces para mí
Absolument.
Son películas muy habladas, pero
pour moi, ce sont des films bavards, des films où l'on parle beaucoup, mais ce qui compte, ce n'est pas tant ce qui est dit, mais plutôt le geste même de la parole. Ce n'est pas le contenu, mais c'est le fait de les voir parler, de franchir cette timidité. Manuela, jeune, elle a comme ça cette espèce de logorée et du coup, elle a cette théorie sur la timidité en disant que voilà, c'est le propre des timides d'avoir besoin de parler en permanence.
Est-ce que c'était un choix volontaire de votre part ou c'est juste parce que vous aimiez ces deux acteurs que l'un fait une tête de plus que l'autre, que ce soit quand ils sont adolescents ou quand ils sont adultes. Et comment est-ce qu'on cadre ça, justement, quand on a une telle disproportion de taille?
Sí, supongo que era algo que encontré
oui, je pense
buscar,
que sans le chercher, c'est sans doute quelque chose qui m'a plu, que j'ai trouvé.
Me gustan esas asimetrías en
J'aime
general,
bien ¿no? les asymétries en général.
Y creo que efectivamente, la relation entre
Et en effet,
cuerpos,
la, le rapport entre les corps, entre leur taille, toutes ces différences ¿no? de ces deux acteurs, c'est ce qui les rend touchants, intéressants.
No casa bien,
tout ce qui ne s'emboîte pas bien, c'est ce qui me plaît.
Le film se clôt sur une image qu'on a vue à un autre moment dans le film. Au début, c'était une gravure dans une galerie. On n'y prête pas forcément attention. Un ballon rouge dans la tempête. Mais manifestement, l'image est suffisamment importante pour vous, pour que vous l'ayez placée sur le générique de fin. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez expliciter cette métaphore? Moi, j'y ai vu, peut-être à cause du film d'Albert Lamouris, le ballon rouge, quelque chose qui représenterait l'enfance et qui serait pris dans la tempête de l'âge adulte. Mais vous avez peut-être une autre interprétation, Jonas Trueba.
Bueno, es un grabado que tengo que encontré durante la
Cette gravure, je l'ai trouvé quand je faisais des repérages pour le film.
Por azar.
Complètement par hasard.
En la misma tienda que vemos en la película
Dans
que ellos se detienen
la
a mirar unos
boutique
grabados.
Même, on les voit s'arrêter
Realmente
pour regarder des gravures. Elle se
y
trouvait
de
là.
Para mí, et tomó una importancia
soudain, pour
énorme.
Moi, ça a pris un sens, une importance, au point que je l'ai acheté, je l'ai emporté chez moi. Il est encore accroché sur le mur de mon salon depuis. Je le vois presque tous les jours.
Di con él, pero no era que ese grabado lo hemos pensado para la película.
Non pas qu'on l'ait pensé pour le film, mais
il
a trouvé sa place dans le film.
Merci, Jonas Trueba. On a parlé passé, parlons un peu à venir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du court-métrage que vous avez fait pour le Centre Pompidou dans la série Où en êtes-vous? Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner un indice de ce mystérieux long-métrage que vous allez dévoiler pendant la rétrospective?
Bueno, pues sí, he tomado con mucha
oui.
intérêt et émotion.
Ça m'a beaucoup touchée, émue, qu'on me demande où en êtes-vous pour la rétrospective qu'on me proposait. Donc, j'ai vu les propositions faites par d'autres cinéastes invités dans ce cadre.
Entregar, digamos, una película
je vais essayer
muy sencilla,
de proposer un film íntima, très simple, très intime.
Y aprovechar este encargo, el hecho de que sea una película de encargo, precisamente et para hablar
fait
en una
que
clave
ce soit une commande, je vais le mettre à profit pour en faire quelque chose de particulièrement personnel et intime.
No me atrevería si no fuera un encargo,
peut-être
no?
Que sans ça, je ne me serais pas permis, je n'aurais pas osé faire quelque chose d'aussi intime.
La pregunta que es tan pertinente, vous en êtes-vous,
cette commande passe par une question tellement évidente que je me pose tous les jours. Où en suis-je comme cinéaste de nos jours? Je ne peux pas ne pas me la poser, donc ça résonne.
Et luego propongo una film surprise.
Et puis ce film surprise, en effet, dans lequel je me suis lancé. Il n'y a pas de titre pour ce film, pour précisément vous donner envie de venir le voir. C'est un film qu'on a fait avec beaucoup de joie, soudainement, et puis ça sera une exclusivité au Centre Pompidou.
Eh bien, on ira voir ça. Merci beaucoup, Jonas Trueba.
Merci à vous.
Trizas de un corazón, pavesas al viento, diminuto fragmento de una vieja emoción. Cosas que no lo son, hojas secas finales, cayendo en lentas espirales, pompas de jabón. Y ni siquiera sientes pena. Sino la pena de no sentir dolor. Y sin embargo, debe estar la Arcadia en flor. Debe estar la Arcadia en flor. Tras de las puertas de bronce del tiempo. Debe estar la Arcadia en flor.
La Reconquista sortira en salle mercredi prochain. Merci à Massoumé Laïdji d'avoir prêté sa voix à Jonas Trueba. Jonas Trueba, le goût du présent, c'est une rétrospective intégrale à voir en sa présence au Centre Pompidou MK2 Bibliothèque à Paris du 27 janvier au 10 février. L'accompagne un beau et passionnant livre aux éditions de l'Œil qui rassemble entretiens avec le cinéaste et avec ses collaborateurs de toujours, des extraits de ses carnets et un essai de Marcos Uzal. Ça s'appelle Jonas Trueba, le cinéma, c'est vivre trois fois plus, et c'est effectivement le sentiment qu'on a quand on vit ces films. Jonas Trueba est encore à l'honneur de la Cinéthèque, la cinémathèque en ligne des cinéastes, qui propose une sélection de films en résonance avec ses thèmes de prédilection, ainsi que la liste de ses 50 films préférés, où figure en bonne place, on n'en est pas surpris, le rayon vert d'Éric Rohmer, qu'on pourra aussi voir d'ailleurs dans sa rétrospective. Sur la Cinéthèque, les lycéens en terminale cinéma audiovisuel trouveront encore au tarif réduit de 2 euros par film les œuvres au programme du bac, La Féline de Jacques Tourneur, High School de Frédéric Weisman et le film Irma Vep d'Olivier Assayas, ainsi que le sérial de Louis Feuillade qui l'avait inspiré, Les Vampires. Côté musique de film, c'est Laetitia Pensanel-Garic qui a remporté le prix France Musique SACEM pour sa bande originale du film d'animation Hola Frida de Karine Vézina et André Cady. Le prix lui sera remis vendredi prochain à l'auditorium de Radio France lors d'une soirée de concert autour de la musique de Francis Lay et de la création de Jérôme Rebottier pour le Comte de Monte Cristo, interprété par le Philharmonique de Radio France. Deux festivals encore à vous annoncer, l'Amnesty Film Festival du 30 janvier au 1er février, c'est au Luminor à Paris, avec une journée spéciale sur Gaza le 31 janvier, Elias Sambar en invité d'honneur. Et puis aussi la 63e édition, belle longévité, des rencontres cinéma de Pézenas, avec jusqu'au 26 février un focus sur le cinéma grec des années 50 à nos jours. On vous invite enfin à passer la nuit prochaine avec Youssef Chahine, qui demain aurait eu 100 ans. Le destin ressort en salle mercredi prochain, mais ce soir à partir de minuit, Youssef Chahine, l'ami égyptien, c'est une nuit de France Culture concoctée par Alban Penaranda. Ceci annoncé, on se plonge dans les bas-fonds londoniens avec un guide un peu spécial.
feel all those vibrations?
No.
Just stand still a minute, love. Try and feel it through your feet. Do you not get all those tremblings and mumblings coming up through your bones?
No, really, no.
Do you not get like a sense of like a whole other world underneath all this? You know, like the guts of London. What with all the tube trains and everything, the city's vista and the subterranean fucking fistulas and conduits and colons and bunkers and dungeons and tombs and all that.
What about hell and the sewers like?
Do you know that wherever you are in London, right, you're only 30 feet away from a rat?
Aye.
Does that freak you out?
No.
Do you believe in hell?
Aye.
So do you believe in the devil?
Aye.
What do you think he looks like?
Looks like that, doesn't he?
What, a little nudist homunculus with a pink quiff?
Looks like a snake.
So look at that. It's Archer, isn't it?
It's my good luck charm.
Has it brought you much?
Was it fuck?
You superstitious?
No.
What do you wear a good luck charm for then?
You're gonna get something to eat or what? You ever seen a dead body?
Only me own.
Avant la très colérique et mal embouchée Pansy, une des deux sœurs dont Mike Lee était venu nous parler dans Plan Large le 5 avril dernier, il y avait eu en 1993 Johnny. Johnny, clochard aussi flamboyant que cynique, aussi charmant que violent, aussi misanthrope que philosophe. Et avant qu'il ne terrorise les enfants en Rémus Lupin, le professeur loup-garou du quatrième Harry Potter, celui réalisé par Alfonso Cuarón, c'est avec Naked qu'on avait découvert David Thewlis, qui avait suffisamment impressionné les jurés du Festival de Cannes et leur président Louis Malle pour qu'il lui décerne le prix d'interprétation masculine, celui de la mise en scène étant remis à Mike Lee, imposant ainsi sur la scène internationale un cinéaste de déjà 50 ans, qui tenait plus des jeunes hommes en colère du free cinéma des années 60 que d'un Ken Loach auquel on l'a un peu trop rapidement appareillé dans le cinéma social britannique. Mike Lee, qui a dit, je le cite, que ses sentiments à l'égard de Naked sont aussi ambivalents que le film lui-même, qui, espère-t-il, est aussi drôle que triste, aussi beau que laid, aussi compatissant que répugnant et aussi responsable qu'anarchique. Même sentiment, Sandra Onana.
Bah, c'est un film à coucher dehors. C'est un film enfermé dehors, d'ailleurs. Et il fait froid, et il fait noir. On est à Londres, ou alors on est en enfer, à moins que ce soit la même chose. En tout cas, on est sous la surface de la société utile. Celle qui bosse, celle qui produit. En dessous, il y a l'antisociété. Celle des marginaux, des camés, des sans-famille. Et ça, c'est le royaume de Johnny. C'est celui où on beugle sous les fenêtres, on se réchauffe dans les égouts, on dort debout sur le palier des gens comme il faut. Un cinéaste conventionnel, là-dessus, il ferait au moins une petite intrigue de polar, quoi. On serait dans les bas-fonds du crime, avec des histoires de trafic, il y aurait un larcin qui tourne mal, classique. Mais Mike Lee, quand il fait Naked, il fait un film métaphysique. C'est-à-dire qu'il arrive à pousser la noirceur à un degré si aigu que ça en devient un film sur la laideur du monde. Il y a une scène très parlante où une jeune fille rentre dans sa chambre toute proprette et découvre Johnny, le zonard qu'on vient de passer à tabac, couché dans son petit lit. Elle dit « c'est dégoûtant ». Alors, c'est quoi dégoûtant? Qu'est-ce que c'est que cette crasse que le film n'essaye pas de racheter? Déjà, on a l'impression d'un film qui tourne sur lui-même, qui revient sur ses pas, parfois à deux jambes, parfois à cloche-pied. Il fait même plus provocant parce qu'il commence par le pire. Première scène du film, un viol dans une ruelle commis par ce même personnage qui va quand même falloir se fader tout du long. Donc c'est hyper angoissant en fait. On se demande comment on peut nous laisser seuls avec Johnny après ça. Est-ce qu'on va nous forcer à l'aimer ce personnage? C'est compliqué de ressortir le film 30 ans après et regarder en face la violence qui s'abat contre les personnages féminins tout le temps. Ce qui n'empêche pas le film de réfléchir à cette violence. Il y a un dialogue où deux femmes commentent cette cruauté des hommes qui n'en épargnent aucune. Les jeunes, les vieilles, les belles, les moins belles. Elle forme un trio de codépendance avec Johnny, c'est un peu la maman et la putain dans un appartement, mais chaque fois que Johnny les maltraite, l'humanisme très bizarre et ambigu du film consiste à ne pas les abandonner, ces filles. À part ça, le programme, bah, c'est l'errance, un vaurien, hante la ville, son seul mode d'existence c'est le rejet. Si on est romantique, on appelle ça une révolte. Mike Lee est un petit peu romantique. La révélation qu'est David Tullis dans le film, c'est aussi un physique, quoi. C'est la tronche de l'emploi. Johnny, il s'exprime que par logorée verbale, c'est comme des gerbes de méchanceté qui sortent de lui. Et ça, c'est la verve de Mike Lee, le rire très noir. Quand il tourne Naked, il a déjà 30 ans de théâtre dans les pattes. Sa méthode, c'est déjà celle d'un scénario hyper minimal sur quelques pages qu'il va développer avec les improvisations des acteurs. Et puis, il tourne un film comme des entrées et sorties de scène, en fait. C'est des personnages qui ont l'air de sortir de nulle part et qui retournent au néant après. Comme s'il voulait traduire en film cet état d'âme qui s'appellerait la désespérance. Et c'est pas n'importe laquelle, puisqu'on sort d'une décennie de libéralisme à marche forcée des années Thatcher, en 93. Donc c'est une désolation de classe. Le film construit même un alter ego à Johnny, qui serait un peu la face victorieuse du capitalisme, son négatif. Donc c'est le mec urbain de la finance, sadique, qui lui ne manque de rien, et qui de toute manière se sert. C'est aussi l'aspect le plus démonstratif de Naked, et en même temps c'est intéressant, c'est comme s'il y avait un autre film parallèle à celui de Johnny. Ce serait un peu le film de Home Invasion, diraient les anglo-saxons, donc de violation de domicile. Des femmes font entrer le mal dans leur maison, et le mal, il a aussi le visage de ce possédant qui vient vider votre frigo, coucher dans votre lit. Chez vous, c'est chez lui. C'est vrai qu'on a toujours rapproché Mike Lee de Ken Loach. Comme cinéaste des classes populaires, il y a des différences quand même, un autre rapport au monde. Quand on regarde Naked, on pense plutôt à Buffet froid de Bertrand Blier avec du Dostoïevski et du Beckett dedans qu'à moi, Daniel Blake, par exemple. Et donc, le naturalisme social, la galerie des trognes, l'accent, c'est un peu un trompe-l'œil. Faut bien voir que Mike Lee, il construit une réalité très stylisée, très chorégraphiée. Il sculpte des lumières extrêmement maladives avec son chef-op. Il invente à Londres, qui n'est pas du tout grouillant d'ailleurs, c'est la solitude incarnée, cette ville, comme un plateau désert qui donne à voir à quel point la vie ordinaire autour est déshumanisée. C'est assez dingue comme le regard du film sur la modernité tient le coup. 30 ans après, il y a toute une scène autour d'un gardien de nuit qui surveille plusieurs étages de bureaux avec rien à voler dedans. Et il y a juste cette nécessité de s'assurer que l'espace vide n'est squatté par personne. Est-ce que c'est pas dégoûtant, ça aussi ? Et puis au bout de toutes ces nuits blanches, en fait, on finit par se demander s'il existe vraiment Johnny. Est-ce que ce serait pas un peu le diable posé sur l'épaule des personnages qui sert à les soulager d'eux-mêmes en étant la pire version possible d'un homme ? Peut-être que Mike Lee ne savait pas lui-même. Peut-être qu'il a un peu pensé à ce poème de Baudelaire, « Chacun sa chimère », où des voyageurs au visage fatigué cheminent dans le monde avec un monstre accroché dans le dos. Le vers auquel on finit par penser, c'est celui-ci. Chose curieuse à noter, aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou ou collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même.
Merci Sandra Onana. Naked de Mike Lee, c'est à voir et revoir en très belle copie restaurée à partir de mercredi prochain. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Ludovic Auger et Marc Gavernès. L'émission a été préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.